On va souhaiter de suite un bel anniversaire à Christian, bah oui, notre monsieur pub sur les ondes de Colline. C'est pour ça qu'il est important ce dimanche. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bel anniversaire Christian, on ne manquera pas de te le souhaiter tout au long de cette journée. Et j'imagine que tu vas bien en profiter. Heureux de vous retrouver. Je vous ai présenté le programme juste avant le journal de Léon. Des résultats, des réactions également. Un beau SMD à débuter ensemble en ce dimanche matin. Une fois n'est pas coutume, on va débuter par de la course à pied avec les résultats du Rortais Sport Endurance. Vous savez, les Rortaisiens sont des férus, des trails et autres ultra-trails. Deux résultats. Tout d'abord, l'accessite pour Aurélien Souchelot qui est du côté de Madère, l'ultra-trail de l'île de Madère. Et Aurélien s'est aligné sur le 60 km avec un dénivelé positif de 3100 mètres. Les spécialistes apprécieront. Il est finisher, notre Aurélien Souchelot. Il termine à la 47e place, 60 km parcourus en 8 heures et 10 minutes. Bravo champion. Et puis autre actualité pour le RSE, c'est l'abandon pour Quentin Debar, l'autre champion du club rortaisien qui s'alignait sur le Bretagne Ultra Trail. Abandon car grippe cette semaine. Il a été un petit peu embarrassé Quentin et il n'y avait pas de jambes. Il a démarré pourtant cet ultra. Il s'était élancé mais a été contraint à l'abandon. Quentin Debar. Et puis autre actualité concernant les champions de course, eh bien c'est Hugo Hay, notre champion du SBAC, entorse à la cheville. On espère pas trop gravissime pour Hugo. Toujours est-il qu'il est indisponible pour l'heure. Il est en convalescence, comme l'on dit, pour Hugo Hay. Allez, le football, sans plus attendre, la Ligue 1 au programme avec trois rencontres pour l'heure. Lyon qui s'est imposé face à Montpellier, 5-2. Monaco qui s'est imposé à Saint-Étienne, 4-1. Et puis le sacre pour le Paris Saint-Germain, le 10e titre, 1-0 hier face à Lens. Des matchs certes, et puis une actualité malheureusement dans les tribunes, puisque sur ces trois matchs, et à Lyon, et à Saint-Étienne, et au Paris Saint-Germain, les supporters ne se sont pas très très bien comportés, même si à Paris, au Paris Saint-Germain, on ne s'est pas manifesté, au contraire, on n'a pas fait de bruit par rapport à ce titre, on ne l'a pas fêté comme il se doit. En revanche, à Lyon et à Saint-Étienne, c'est pas très bon être dans les stades de foot en ce moment. Cet après-midi, il y a des matchs hyper intéressants et hyper importants. On commence par Clermont à la maison. Match ô combien important pour les hommes de Pascal Gatien. Johan, d'ailleurs, le fiston fera son retour dans le 11 clermontois. Clermont Foot qui joue face à Angesco. Un Angesco diminué après la blessure de Boufal le week-end dernier, même cette semaine, contre le Paris Saint-Germain. Ça va être difficile. Ce sera un match avec, on pourrait dire, malheur au vaincu, en quelque sorte, dans cette rencontre. Rennes à la maison face à Lorient, c'est le derby de la Bretagne. Brest s'en va jouer à Metz. Nantes face à Bordeaux, le derby de l'Atlantique, en quelque sorte. Nice qui reçoit Troyes. Lille sera opposée à Strasbourg. Et puis ce soir, 20h45, Reims à la maison, au stade Auguste Delaune face à Marseille. Le championnat de Ligue 2 qui s'est continué hier avec le match nul, 1-0 entre Caen et Auxerre. Les Auxerrois qui espéraient se rapprocher de la deuxième place, et bien qui n'arrivent pas à s'imposer face aux Normands. Et puis cette clôture de la 35e journée du championnat, c'est demain. Les Niortais, les Chamois-Niortais s'en iront défier Toulouse, l'actuel leader qui peut valider son billet pour la Ligue 1 en cas de succès. On annonce un stadium archi plein, vous imaginez. Imaginez bien l'ambiance demain soir. Les Chamois qui iront donc défier le leader toulousain, match à 20h45. Toulouse leader 73 points, l'AC Ajaccio deuxième 68 points, Auxerre troisième 65 points, Sochaux est quatrième avec 64 points, le Paris FC est cinquième avec 63 points. Ensuite, il y a un petit trou puisque le Havre est décroché avec 50 points pour les hommes de Le Guen. Les Chamois qui n'ont pour objectif maintenant que de terminer dans le top 10, même en cas de défaite demain soir, resterait dans ce top 10 puisque Amiens est 11e avec 43 points, Niort est 10e avec 45 points et devant il y a Nîmes avec 46 points. Le championnat de national avec un match hier, la victoire de Sedan face à Chambly, 1-0, à retenir le maintien pour le SO Cholet qui s'est imposé à Avranches 2-0. Voilà bien longtemps qu'ils ne s'étaient plus imposés. Ils l'ont fait et du même coup compostent leur billet pour l'an prochain dans ce même championnat de national. Peut-être la montée pour Laval demain soir. Là encore, le match décalé. Laval face à Boulogne. C'est un peu le match des extrêmes. Les Lavallois ce matin qui sont deuxième à égalité de points avec Annecy. Laval qui, en cas de victoire, eh bien validerait son billet pour la Ligue 2. On a mis un grand écran sur la place principale de Laval. C'est la grande fête attendue. Laval face à Boulogne demain soir. Et les Choletais, quant à eux, eh bien, sont 12e avec 37 points dans ce championnat. On passe au championnat de National 2 avec les Herbiers en déplacement au Puy. Le Puy qui s'est imposé sur le plus petit des scores 1-0. Ça aurait pu être pire hein, parce qu'ils ont pas mal vendangé les joueurs du Puy en volet. 1-0 donc. Les Herbiers qui joueront la semaine prochaine, vendredi précisément à 19h au stade Massabielle. Ce sera en quelque sorte le derby face à la réserve d'Angesco. Et puis dans ce même groupe de D de National 2, on notera la victoire importante de Trélissac. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de Trélissac? Parce que en cas de descente, eh bien, ça aurait des répercussions sur nos championnats régionaux si Trélissac venait à descendre. Mais comme l'équipe s'est imposée hier face à la réserve nantaise 1-0, il se donne pour l'heure une petite bouffée d'oxygène. L'équipe de Trélissac est dixième dans ce championnat avec 26 points. Et dans le bas de classement, eh bien, voyez par exemple le Colomiers avant-dernier à 24 points. Donc c'est assez assez serré pour cette équipe de Trélissac. 31 points pardon pour Trélissac et 24 points pour Colomiers, mais c'est extrêmement serré et on va suivre les résultats, ça aura son importance pour la suite et la fin surtout du championnat. On reste tiens dans la poule de National 3 de Nouvelle-Aquitaine avec les résultats d'hier. C'est le succès de Bayonne en déplacement à Libourne, 5-2. C'est le succès important de la réserve niortaise face à Neuville, 2-0 pour les hommes de Carl Touraine avec Olétan et Camara pour les buteurs de Sévrien. C'est le succès de Anglette face à Bordeaux, 4-1. 4 partout entre Cognac et Poitiers. Lèche-Cap-Ferré qui a battu Châtellerault, 3-1. Le Stade de Bordeaux a battu assez nettement Chauvigny, 5-2. Et nos Bressuirais qui reviennent avec le point du match nul de partout de leur déplacement dans les Landes à Tartas précisément. Dommage de la déception parce que les Bressuirais, grâce à Jordan Battet, menaient 2-0. Et Tartas a égalisé, a réduit le score et a égalisé dans le dernier quart d'heure de la rencontre. On imagine la déception pour cette équipe du FCB qui lutte à nouveau pour le maintien des Bressuirais, eh bien, qui sont au classement. Avec pas mal d'équipes, hein. C'est un mini-championnat, ils sont 12e pour l'heure avec 21 points. C'est un mini-championnat à 6 équipes avec la réserve de Niort, avec Châtellerault, avec Lèche-Cap-Ferré, avec Tartas, Cognac et donc Bressuire. Des équipes qui se tiennent en très peu de points puisque Cognac le dernier a 20 points. Niort, la réserve, à 23 points. Donc voilà, c'est super serré. Ça va se jouer entre ces équipes et le championnat à venir pour les Bressuirais. Eh bien, la semaine prochaine, Bressuire s'en va jouer son match à rejouer. Rappelez-vous, ils avaient joué au Lèche-Cap-Ferré lorsqu'il y avait une panne d'éclairage. Ça y est, la décision a été prise. Le match est à rejouer. Ce sera le week-end prochain. Match important parce que Lèche-Cap-Ferré, eh bien, compte également 21 points comme Bressuire. Ensuite, réception de Anglette. Puis, le 14 mai, ce sera un déplacement au stade de Bordeaux. Il faudra rejouer le 21 mai contre cette équipe de Lèche-Cap-Ferré, le match retour donc. Et puis, la dernière journée de championnat, ce sera pour le 4 juin, les Bressuirais qui s'en iront jouer à Chauvigny. Fin de saison haletante pour les Bressuirais. L'actualité, c'est le départ de Xavier Bonneau, ça on le savait. On connaît la destination, il a signé à Ancenis, une équipe d'Ancenis qui jouera l'an prochain en Régional 1. Dans la région des Pays de la Loire. Donc, une équipe d'Ancenis qui caracole. On a regardé le classement ce matin. À 2-3 journées de la fin, ils ont 12 points d'avance. 45 points pour Ancenis. 12 points d'avance sur l'équipe de Changé, la réserve, qui est deuxième de ce championnat. Et l'entraîneur Bressuirais, qu'en est-il? Eh bien, Fabien Gazot, cette semaine, a posé la question au président Bressuirais, Stéphane Viau. Rien n'est encore tranché.
Ben, on y travaille sérieusement. Après, il est vrai que notre situation reste reste dans le flou, donc ça met des interrogations, mais en tout cas on y travaille sereinement.
Comment ça se passe? Vous démarchez, vous recevez des candidatures, comment ça se passe exactement?
Oui, c'est à peu près ça. On est dans cette démarche-là de rencontrer des profils qu'on a ciblés pour leur présenter le projet et les motiver à nous rejoindre.
Le profil, c'est quoi justement?
Bah, le profil, c'est quelqu'un d'expérimenté qui apporte aussi un regard sur la formation. On a des formations qui sont bonnes, qu'il faut encore de nouveau faire évoluer avec un nouveau regard, un nouveau discours. Donc on s'oriente de cette manière-là.
D'accord. Et il y a beaucoup de candidatures spontanées qui vous arrivent. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Bon, ça reste assez confidentiel.
Nous n'en serons pas plus donc pour l'heure, les Bressuire qui travaillent à la succession de Xavier Benoît. Un petit mot de la Nationale 3 chez nos voisins des Pays de la Loire, avec La Roche-sur-Yon qui s'impose face à Sablé 2 buts à 1, La Châtaigneraie qui perd à Changer 3 buts à 0, Saumur qui reste leader en s'imposant à la maison face à la réserve du Mans 2 buts à 0, la défaite de Pouzauges sur sa pelouse face à Saint-Philbert 3 buts à 1, à l'extérieur c'est Chaland qui a battu Vertou 5 buts à 1, le succès de Fontenay-le-Comte face à la réserve de Laval 2 buts à 1 et le Poiré-sur-Vie s'est imposé à Sautron sur le plus petit des scores 1 but à 0. La pause pub dans ce sport matin dimanche, j'espère que vous passez un bon début de journée. On se retrouve après avec les résultats de foot au niveau régional et départemental. Oui, heureux de vous retrouver si vous venez de nous rejoindre. Le rappel des résultats, nous avons évoqué les résultats de foot au niveau national. En Ligue 2, les Chamois joueront-ils les troubles faites demain soir à Toulouse? Car en cas de succès, les Toulousains composteraient leur billet pour la Ligue 1 la saison prochaine, match à 20h45. En National, les Choletais, eux, joueront en National. L'an prochain, se sont imposés à Avranches 2 buts à 0. En National 2, la défaite des Herbiaux, puis 1 but à 0. Et puis en National 3, le match nul frustrant des Bressuirais à Tartas. Les Bressuirais qui menaient pourtant 2 buts à 0. Ils ont été rejoints dans le dernier quart d'heure. Les Chamois, bonne opération. Ils s'imposent à Neuville, 2 buts à 0. Et puis chez nos voisins des Pays de la Loire, Pouzauges qui perd face à Saint-Philbert, 3 buts à 1. La défaite de la Châtaigneraie face à Changer, 3 buts à 0.
Sport matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, les résultats des championnats de foot au niveau régional. On commence par la R1, le succès de la réserve bressuiraise. Les hommes de Laurent Hébras qui se sont imposés face à Niort-Saint-Florent 2 buts à 1. Ciodo par deux fois côté Boquin. La lourde défaite des Noyaux-Bray en déplacement à Buxerolles. Les banlieues arpois de Vin s'imposent 5 buts à 0. Le match au sommet entre La Rochelle et Fétia qui tourne à l'avantage de Fétia. Les banlieusards Limougeaux se sont imposés 1 but à 0. Changement parce que du même coup, La Rochelle perd sa place de leader dans ce championnat de R1. La réserve de Poitiers, quant à elle, s'est imposée à Royan-Vaux 3 buts à 1. Guéret l'a emporté face à Montmorillon 2 buts à 0. Et puis les Toircets de Corentin-Maurice se sont imposés face à Niort-Saint-Liguère 3 buts à 1. Un match qui s'est joué dans les derniers instants de la rencontre, qui a basculé tout du moins dans les dernières minutes, puisque les Toircets ont ouvert le score par Réo à la 81e. Paquet, l'inévitable buteur, Léo de Gardien, égalise à la 88e. Réo donne l'avantage au Toirfoot à la 90e. Et pendant le temps additionnel, c'est Aubin à la 96e qui donne la victoire définitive au Toircets. Victoire 3 buts à 1 dans ce match entre équipes de Sévrienne. Et puis cet après-midi, c'est Échiré Saint-Gelais à la maison qui jouera face à Saint-Jean d'Angély. On reste en R1 avec le championnat féminin, les Bressuirèzes. Le match ô combien important cet après-midi sur le terrain d'honneur. Les filles de Julien Baudin qui accueillent Anglette. Il faut absolument s'imposer pour jouer en R1 la saison prochaine. C'est en quelque sorte la finale. Résultat, réaction également ce soir dans Sport dimanche dernier et ce à partir de 18h. Le championnat de Régional 2, la poule A pour débuter. D'abord, on évoque que la poule A dans ce championnat puisque nos équipes de Sévrienne y figurent toutes. On commence par la défaite de la réserve de Choret face à Migny-Auzens. Défaite 3 buts à 0. Le match nul 0-0 entre l'AS Rethez et Nintré. Et puis le match au sommet, focus ce matin sur cette rencontre entre Parthenay-Vienne et l'Étoile Maritime. Avantage au Racing Men de Parthenay-Vienne qui s'impose 1 but à 0. Il est en direct avec nous. On le retrouve avec plaisir une nouvelle fois. Philippe Souchard, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup, coach de Parthenay-Viennais, d'être avec nous ce matin. Ça s'est décidé tardivement. Hein. J'ai vu que Parthenay-Viennais s'était imposé, qu'il y avait un contexte un peu particulier lors de ce match face à l'Étoile Maritime. On parle d'abord du match, Philippe. Victoire 1-0. Votre équipe qui ouvre le score très rapidement, elle a tenu. On dit quoi? Qu'elle a fait le job?
Ouais, elle a fait le job. Elle a tenu, on marque rapidement, au bout de deux minutes, on marque rapidement sur un coup de pied arrêté. Et puis après, on a tenu. Après, on n'a jamais été mis forcément en danger, à part sur des coups de pied arrêtés de leur part. Mais on a vu un match, un gros match de l'équipe de Parthenay. Un gros bloc qui était costaud mentalement, une grosse solidarité, vraiment une très très belle équipe qui veut vraiment aller au bout, quoi.
Qui vous a fait plaisir, Philippe, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Je pense qu'hier on a vu vraiment des joueurs hyper hyper concentrés, pas de pression par rapport au résultat. On a vu vraiment une équipe. Ça faisait très très longtemps depuis ces phases retour là, que j'avais pas vu une équipe aussi solidaire et aussi déterminée à tenir ce résultat, quoi.
Parce que c'était la finale, Philippe, quand même. Le premier qui recevait le second, c'était le match couperet.
Ouais, c'était la finale, pas encore, parce que on a un match important la semaine prochaine contre Migné, hein. Donc voilà, aujourd'hui mathématiquement il y a rien de fait. Donc, mais c'était un match hyper important, bien sûr, parce qu'on avait un point d'avance. Si on voulait creuser l'écart, il fallait gagner, il fallait surtout pas perdre. Voilà, on avait été s'imposer chez eux déjà au match aller, donc fallait surtout pas perdre contre cette équipe de l'Étoile. C'est chose faite. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il nous reste un match, il nous reste Migné qui va pas être simple. On a la SRTS le dernier match. Voilà, on espère, on reçoit Migné en plus encore chez nous la semaine prochaine, qui va jouer le maintien chez nous. Donc ça va être un match aussi compliqué que hier.
Bon, mathématiquement rien n'est fait, mais on dit quoi? On pourrait très bien dire ballotage favorable quand même, Philippe.
Oui, je pense que voilà, avec ces 4 points d'avance maintenant, je pense que dans la tête des joueurs, on y pense tous, mais je reste à l'ancienne où je préfère attendre que ça soit mathématiquement fait pour pouvoir parler de cette R1 et puis voilà, je pense qu'il faut pas s'enflammer non plus.
Être prudent et mesuré. On ne peut pas, Philippe, ne pas occulter ce qui s'est passé autour du terrain, parce qu'il y a eu cette rencontre sur le rectangle vert, sur la belle pelouse ou pas maintenant?
Ouais, belle pelouse.
Ça va mieux?
Ouais, c'est pas pire.
Ok.
Mais on avait
un environnement extrêmement particulier. Hein. L'Étoile Maritime n'avait pas fait le déplacement avec ses simples 11 joueurs. Il y avait vraiment un contexte particulier. Raconte-nous. Force de police aussi, je crois.
Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé exactement, parce que je voudrais pas qu'on mette non plus tout le club de l'Étoile dans ce dossier-là. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé, on va dire, entre guillemets, sur le terrain, entre les joueurs, à part deux joueurs. Voilà, il y a deux joueurs au club qui avec qui ça s'est mal passé, et ces deux joueurs ont pris un carton rouge. Donc après ce premier carton rouge du joueur de l'Étoile Gorille,
à quel moment de la rencontre, Philippe?
Ah ben c'était à la 70e à peu près, 65e, 70e, sur un deuxième carton jaune, donc il prend un rouge. Et du coup ce joueur est sorti. Ce joueur a pris sa douche, a été dans la tribune, a commencé à mettre le bordel, hein, on va dire ce qui est.
Appelons un chat un chat.
Ouais, il s'en est même pris à un supporter avec en lui mettant des coups de béquille, quoi. Voilà. Donc ça a complètement dégénéré dans la tribune à cause d'un joueur, à cause d'une personne. Ce même joueur, donc après, ça a énervé un peu tout le monde sur le terrain. Il y a un deuxième joueur de l'Étoile qui met un mauvais coup, qui prend un rouge direct. Donc ces deux joueurs sont sur le terrain, ils sortent, ils arrivent, la fin du match arrive, donc on a gagné 1-0. On rend hommage avant de rentrer dans les vestiaires à Guillaume de Jésus qu'on a perdu il y a une semaine, et il nous attendait à l'entrée. Et du coup, nous j'ai fait rentrer mes joueurs directement au vestiaire. Et le premier joueur qui a pris ce carton rouge, qui a été mis le bazar dans la tribune et redescendu en bas, et a mis un coup de poing violemment à Norton Steele, notre numéro 10. Et voilà, ça a dégénéré. Et on a eu l'intelligence dans la semaine avec notre président
a perdu. On vous a perdu, Philippe.
Allô.
Oui, on vous a perdu. Oui. Alors, on a eu l'intelligence.
On a eu l'intelligence dans la semaine d'appeler la présidente du club de l'Étoile Maritime en leur indiquant qu'on allait faire venir la gendarmerie. Voilà, parce qu'on savait que ça allait un match. On savait que ça allait être un match tendu. Du coup, heureusement qu'il y a eu l'intervention aussi de la gendarmerie hier soir. Parce que voilà, ils étaient là, ils nous ont défendus, ils ont fait rentrer les arbitres, ils nous ont fait rentrer dans le couloir. Mais ça a dégénéré. Aujourd'hui, Norton Steel, bon, je pense qu'il a été se faire recoudre hier, il doit avoir 5-6 points de suture. Mais j'ai envie de vous dire, si les joueurs, si on les avait pas fait rentrer dans le vestiaire, ça pouvait partir en bagarre générale, quoi. C'était vraiment, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est... Je suis un peu, le foot on le voit pas comme ça. Je suis un peu déçu parce qu'en fait on a un entraîneur en face qui est hyper intelligent, c'est Monsieur Ndok, Jean, que j'apprécie beaucoup, qui a fait un bon travail depuis quelque temps, et malheureusement à cause d'un joueur, voilà, je pense qu'ils vont être pénalisés parce qu'aujourd'hui nous, le club de Parthenay, va pas laisser passer un comportement pareil au stade, quoi. Ça c'est sûr.
Et j'imagine, Philippe, je suis en train de me dire, mais heureusement que vous aviez anticipé, que vous saviez qu'il allait avoir mobilisation des supporters de l'Étoile Maritime, et on peut le comprendre de la part du club qui joue aussi la montée, mais heureusement que vous avez été bon en disant, les gendarmes, venez au match, quoi.
Ah oui, mais ça, je le savais, c'était mal passé à l'aller, déjà. Même moi, j'avais pris un coup de boule déjà à l'aller, alors je savais comment ça allait se passer. Donc, on le savait, que c'est pas forcément à cause de certains joueurs. Mais il y en a un ou deux dans l'équipe qui ont pété un plomb, puis c'est toujours les mêmes. Et puis après, il y a deux, trois supporters qui sont venus, et puis toujours les mêmes. C'était ceux qui sont venus à l'Étoile Maritime, qui sont rentrés à la fin du match pour être méchants avec nous. C'est ceux qui sont venus à Périgny pour nous voir jouer contre Périgny, oui. il y a un mois, qui sont là, qui ont été insultants dans les tribunes. C'est encore ceux qui sont venus hier soir à Parthenay, qui ont insulté toute la tribune, toute la ville de Parthenay, tous les joueurs, et patati patata. C'est toujours les mêmes. Mais ce sont toujours les mêmes. Et aujourd'hui, malheureusement, le club, je suis désolé pour le coach, mais j'espère qu'il va avoir une grosse sanction. C'est pas normal. C'est pas la première fois que ça arrive. Et à un moment donné, il faut, et heureusement, comme je vous dis, heureusement que Jean-Claude Richard, on a eu l'intelligence de prévenir la présidente. Et la présidente de l'Étoile nous a dit, mais faites-le, au contraire, c'est très bien. Mais heureusement, parce que ça aurait dégénéré. C'est sûr.
Bon, il y a eu victoire, mais ça ternit un peu ou? Comment?
Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu victoire. Nous, ce qui s'est passé en dehors, je vous dis, à part le coup de poing qu'il y a eu sur Norton Steel, voilà, là, nous, on est tout de suite rentrés. Les gendarmes, ils ont fait leur travail. Ils ont tout, voilà. Eux, ils ont commencé à péter les plombs, voilà. Nous, on est rentrés. On a, bien sûr que c'est pas le même goût, mais voilà, on a gagné. Nous, notre principal objectif, c'était la gagne. Moi, je m'occupe que du sportif.
Et Philippe, j'imagine que vous devez être d'autant plus content de votre groupe qu'on sait que c'est un groupe qui a du talent, qui joue bien au ballon, mais un groupe jeune et qui n'a pas failli face à cette pression extérieure.
C'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a fait un gros match hier, parce que, comme vous le dites, c'est un groupe jeune, pas forcément d'expérience de haut niveau de région, mais hier j'ai vu une grosse équipe très intelligente, peut-être pas forcément avec une grosse qualité de jeu hier, hein, voilà, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on a tellement l'objectif de résultat que le jeu peut-être on l'oublie un peu, mais hier on a fait un bon match quand même, mais je pense qu'on a une équipe très très intelligente, et chez des joueurs je pense très intelligents en ce moment, et voilà, j'espère que ça va continuer.
À l'image du coach, Philippe.
Non, j'ai été très calme hier, ça s'est bien passé. Je savais que si non, il fallait être serein et lucide hier, donc voilà. Je sais pas si je suis intelligent, mais en tout cas voilà, je fais tout pour que l'équipe le soit et puis que ça se passe bien.
Bon, j'ai pas souvenir que vous étiez un joueur qui pétillait souvent les plombs.
Non.
Sincèrement.
Non, j'étais quelqu'un de, je sais pas, malin peut-être. Mais non, j'ai jamais été un joueur qui pétait les plombs, non, jamais.
Bon, merci beaucoup, Philippe. Alors, ça sera pas simple de vous appeler la semaine prochaine, parce que imaginons qu'il est monté, il y aura peut-être une grosse fête samedi soir. On sait
ouais,
pas
si. Mais vous pouvez m'appeler, moi je serai réveillé.
Bon, il n'y a pas de problème. On transmet à toute l'équipe de Colline. Excellent dimanche, coach.
Ça marche. Merci beaucoup.
Philippe Souchard, l'entraîneur de Parthenay Viennet, victorieux de l'Étoile Maritime, 1-0. Je savais qu'il fallait qu'on mette le focus sur cette rencontre. on avait des indicateurs qui nous avaient confié qu'il y allait avoir de la tension autour de cette rencontre. Effrop-Montcoutan, c'est cet après-midi. Beaumont-Saint-Sauveur également. Et puis le Talus face à Périgny pour clôturer cette journée de Régional 2. En Régional 3, la réserve de Thouars s'est imposée à Niolles-l'Espoir 2-0. 3 partout entre Nord-17 et Saint-Cerbouillé. Un beau derby cet après-midi entre Aubin-Rortais et le Pays de Loing. Buxerolles face à Neuville, c'est le duel de réserve. Le CO Cerisé en déplacement face à la réserve de Châtellerault. Et puis Terve à la maison face à Saint-Varan-Pierget. En Régional 3, toujours dans la poule B, Entrant a battu les Portugais de Châtellerault 2-0. Un partout entre Selverine et Noyer. 3-0, c'est la victoire de Ligugé face au Pays Mexantais. Cet après-midi, le Pays Mélois accueille Fontaine-le-Comte et Vouillé 79 jouera face à Montmorillon. En Régional 3, dans la poule C enfin, Niort-Saint-Florent s'est imposé au Caponice 2-0. Et Saint-Liguer, la réserve, jouera face à Dompierre cet après-midi. Résultat à partir de 18h. Oui, vous avez brandi le carton. Ça va, il était blanc le carton. Ça veut dire pub. J'obtempère, capitaine et arbitre Hugues. On termine avec le foot et le hand et le rugby. La troisième mi-temps.
Oui.
Allez, on va dire ça. Heureux de vous retrouver si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Colline. On a parlé foot principalement. Nous étions avec Philippe Souchard, l'entraîneur de Parthenay-Viennet, une équipe qui s'est imposée 1-0 hier soir face à l'Étoile Maritime. Un match qui s'est aussi joué dans les tribunes. Malheureusement, Philippe Souchard, que vous retrouverez demain dans les journaux d'information, bien sûr, sur les ondes de Colline. Les championnats départementaux, la D1 avec une rencontre hier soir. C'est le succès de Hardin face à Val 6-2. Cet après-midi, la réserve de Bressuire face à Hervaux-Saint-Jouin, Échiré-Saint-Gelais face au Pays Argentonais, Frontenay-Saint-Symphorien qui accueille le leader L'Avenir 79, l'Interbocage à la maison face à Saint-Aubin-le-Clou et Vrine qui sera opposé à la réserve de Nueil-Aubier côté Interbocage. Nouvel entraîneur, c'est Florimond Blais, l'actuel coach de la réserve de Nueil-Aubier qui sera donc l'entraîneur de l'Interbocage la saison prochaine. Il vient avec Maxime Tuzelet. Voilà, vous savez tout sur ces mouvements d'entraîneurs. En départemental 2, on a joué hier soir dans la poule Nord, 2 rencontres. Le FC 3C Chanteloup-Courlet-Chapelle a battu l'Interbocage 4-0 et la réserve du CO Cerisay s'est imposée face au Mahorais 5-2. Cet après-midi, le match important, le match au sommet, c'est Beaulieu-Breuil à la maison face au Talus. Bucelor qui accueille le Pays Tenzéen, les Portugais de Cerisay face à Vrère-Saint-Léger et Saint-Varan-Pierget qui accueille Louzy. En départemental 2 dans la poule sud, match arrêté entre le FC Boutonnais et Lezay. Val-de-Boutonne pour sa part a battu Brulin 3-0. Le match au sommet a quelques matchs de la fin, les matchs sont hyper importants. C'est Mauzé-sur-le-Mignon cet après-midi qui accueille Gatifoot, le match de haut de classement. Beauvoir sera opposé à La Crèche, Sud-Gâtine face à Choret et Val-de-Sèvres face à Effre. Résultat, réaction ce soir 18h dans Sport dimanche dernière. Du foot, on passe au tennis. Il y a souvent des footballeurs qui jouent après leur carrière au tennis. Eh bien, le top 10-12 a débuté à Bressuire. Le tournoi qui fait référence dans cette catégorie d'âge se poursuivra jusqu'au 30 avril. Une 39e édition quasi normale, 39 ans. Rendez-vous compte, c'est énorme. Il y a encore un protocole cependant à respecter, comme nous le rappelait le directeur du TC Bressuire ce matin. Au micro de Fabien Gazo, Michel Fortin.
On retrouve un peu les tableaux qu'on avait les années précédentes. Donc on a la catégorie des 11 ans et la catégorie des 12 ans donc qui se sont mélangés. Donc ça, c'est plutôt bien. On a diminué un peu les tableaux puisque bon, ça faisait beaucoup d'enfants sur une semaine. Donc on a diminué un petit peu puisque bon, les protocoles sont toujours en place. On a toujours le port du masque qui est dans le club et la prise de température puisque Tennis Europe, dans son protocole, nous impose la prise de température à l'arrivée des participants. Et cela tous les jours. Donc bon, c'est pas encore tout à fait la normale, mais bon, on commence à retrouver un peu d'enfants qui grouillent dans les installations et ça, bon, ça fait toujours plaisir.
Et puis on reste sur un tournoi international, on a plusieurs nations.
Voilà, là il y a à peu près 20 délégations, des USA à toute l'Europe. Bon, sauf bien sûr cette année par rapport au Pays de l'Est où là on peut pas accueillir certaines délégations.
320 joueurs et joueuses sont engagés sur le top 10-12 édition 2022. Pour l'instant, on en est au stade des qualifications avec un tableau final qui va débuter ce dimanche 24 avril pour les 11 ans et lundi pour les 12 ans. Les finales, quant à elles, auront lieu le week-end prochain, 29 et 30 avril. Pour l'instant, les rencontres ont lieu uniquement sur Bressuire, mais la semaine prochaine, les matchs auront lieu sur tout le nord du département, avec des répercussions économiques. L'occasion aussi de voir de futures pépites à l'œuvre.
Mais à partir de lundi, on va sur Thouars, on va sur Parthenay, on va aussi Cerizay, la salle de Cerizay et Saint-Aubin-du-Plain. Ça permet pendant une semaine de pouvoir héberger 320 personnes. Donc c'est pas négligeable.
Alors pour les spectateurs, c'est l'occasion de découvrir les futurs talents de demain. Hein.
Voilà, et la dernière en date, c'est la petite Radicanou Emma, qui donc avait gagné en 11 ans chez nous et qui a gagné l'US Open. Donc c'est toute une fierté ça. Et dont encore Belinda Bencic, qui est la seule joueuse à avoir gagné dans les trois catégories en 10 ans, 11 ans et 12 ans. Et elle est toujours sur le circuit.
Raducanu et Bencic qui sont actuellement 12e et 13e du classement WTA. C'est dire s'il y a les futurs champions qui sont aujourd'hui à Bressuire à l'occasion de ce top 10 12. Vous ne manquerez pas, bien sûr, cette semaine, ce sont les vacances en plus, d'aller découvrir et d'aller voir ces très beaux matchs du côté du TCB, mais également surtout le nord du département. On passe au résultat de Hand avec les Pouzogets qui jouaient hier soir au Cercle Paulbert de Rennes, le second du classement. On va dire que la logique a été respectée puisque les Bretons se sont imposés 37 à 25. Prochaine rencontre pour les Pouzogets, ce sera le week-end prochain face à Granville. Granville qui est 10e, ce sera un match important dans l'optique du maintien pour se donner cette bouffée d'oxygène. Pouzoges-Granville le week-end prochain. Et puis en National 3 chez les garçons, l'entente Le Zessel s'est inclinée face à Saint-Gemme. Saint-Gemme qui s'est imposé en terre de Sévrienne de 3 petits buts, 36 à 33. Un mot de volley pour vous dire qu'en National 2, Royan-Saint a battu le VBP Niort. Les Niortais s'inclinent 3-7 à 0. On joue cet après-midi. Les filles en National 2 se déplacent à Nantes et les garçons en National 3 accueillent Fonsorbe. Un mot de rugby enfin avec La Rochelle en top 14 qui a battu Perpignan hier soir à De Flandre 32 à 16. Et puis en Fédéral 1, le Niort Rugby Club entame sa phase finale. Déplacement aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz avec le président Gilles Nazar qui va nous confier un peu comment est-ce qu'il voit la suite de cette saison et la suite, les années à venir pour le Niort Rugby. Le huitième de finale aller est lui prévu cet après-midi à 15h30 à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque, au pays du rugby. Mais depuis quelque temps, les Niortais se sont invités à la table des prétendants. Et si la place est acquise en National 2 au terme d'une saison régulière très aboutie, les phases finales peuvent offrir un sésame pour la National 1 à condition d'arriver en finale. Et c'est bien l'ambition portée par Gilbert Nazar à la veille de ces phases. Pour le président, il n'est pas question de rêver, mais bien de se confronter à la dure réalité.
Il va falloir se mettre les habits de chauffe et venir à la dure réalité de ce que sont les phases finales. Hein. Des rencontres assez spécifiques parce que finalement, on peut pas se dire tiens, dans 3 dimanches, 4 dimanches, 4 week-ends, on se rétablira. Là, il y a match aller-retour et puis c'est terminé ensuite ou alors on a le droit de continuer. Ce sont des phases finales que l'on va jouer à l'extérieur en milieu hostile parce que finalement quand on va dans le sud-ouest, ils sont habitués aux phases finales, ils ont un public qui est complètement derrière leur équipe, donc il faut pouvoir assumer cette pression. Et quand je dis hostile, c'est pas forcément sur le terrain, mais l'environnement en tout cas, il n'est pas hospitalier, hein, il est plutôt hostile. Et puis enfin, troisième élément qui est important, c'est qu'il y a des enjeux très importants pour les clubs, notamment dans les clubs du Sud-Ouest et pour Saint-Jean-de-Luz, c'est bien le cas puisque vous le savez, ils n'ont pas de joueurs sous contrat et donc ils tirent leurs recettes et la rémunération des joueurs, des recettes qu'ils font le dimanche. Et donc là, il y a des enjeux économiques et financiers importants, puisque en phase de finale, il y a toujours plus de monde, de spectateurs, de supporters. Et puis, il y a des enjeux de positionnement et de hiérarchie locale et régionale, parce que finalement, avoir un club en National 2 ou en National 1 au Pays Basque, c'est aussi la suprématie du rugby amateur qui s'exprime.
On est sur des matchs couperés, c'est certain, mais il y a quand même des matchs aller-retour, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les phases finales. Là, on a quand même la possibilité de se rattraper si on rate un peu la marche.
Oui, si on rate un peu, mais je pense, enfin moi en tout cas, le message que j'ai adressé aux joueurs, c'est de tout faire pour gagner chaque match. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé les matchs de Coupe Europe toutes en top 14 et toutes proportions gardées et toute humilité conservée. En fait, on se rend compte que notamment vous regardez Toulouse, vous regardez Montpellier, au total des deux matchs, finalement ils gagnent d'un point et ils ont pu perdre à la maison, ils étaient gagnés à l'extérieur ou. Donc, ce sont des rencontres qui sont forcément serrées, parce que si on perd à l'extérieur, même avec un faible écart, eh bien l'équipe adverse va venir à la maison ici avec l'intention de vouloir gagner aussi, puisqu'ils ont déjà vaincu une fois. Donc, on est dans cette configuration de jouer non pas un championnat où il va y avoir un certain nombre de matchs à la maison, un match à domicile, mais de jouer chaque rencontre pour la gagner.
Quand on vous écoute, on est sur l'exigence du haut niveau et c'est ce que veut tutoyer d'ailleurs le New York Rugby Club.
Oui, tout à fait. Je crois que nous avons la mission d'aller chercher la National 1. Alors attendons-nous bien. Le parcours est quand même très tortueux, en tout cas très très rude. Il faudra certainement mettre tous les ingrédients et aussi aller chercher cette dose de réussite qui nous permet de passer. Et c'est ça le haut niveau. Hein. Si nous sommes en National 1 l'an prochain et même en National 2, tous les matchs seront des matchs de haut niveau, bien évidemment. Donc le haut niveau commence. A déjà commencé dans certaines rencontres de poules, mais il commence dès dimanche à Saint-Jean-de-Luz, oui, effectivement.
Alors, quand on est dirigeant comme vous, on prépare les deux schémas, forcément, hein, que l'on soit en National 1 ou en National 2. Eh bien, le plan n'est pas le même, hein, forcément.
Mais écoutez, je sais pas. Je suis pas parti dans cette logique-là. Nous ne sommes pas partis dans cette logique-là. Parce que quoi qu'il en soit, la National 1, nous la voulons cette saison ou les saisons prochaines. Et donc, je pense qu'il est bon d'être en avance de phase et donc de préparer, si nous sommes en National 2, l'équipe de National 2, comme si nous étions en National 1. À la marge près, bien évidemment, à la marge près. Mais je pense qu'il faut qu'on en soit en avance de phase. Il ne sert à rien de monter d'un échelon pour se dire, bon, finalement, on va essayer de s'y maintenir. Moi, je suis pas du tout dans cette logique-là. Si on monte d'un échelon, c'est pour pouvoir bien y figurer, très bien y figurer, et atteindre l'échelon supérieur rapidement. Notamment pour ce qui concerne, bien sûr, National 1 et National 2.
Gilbert Nazar, le président de New York Rugby Club, rencontré cette semaine par Fabien Gazeau. La rencontre, le huitième de finale, aller à Saint-Jean-de-Luz, c'est cet après-midi, 15h30. Résultat, bien sûr, ce soir à partir de 18h. Ainsi se termine ce Sport Matin Dimanche. Merci à Hugo pour la préparation une nouvelle fois. On vous souhaite un excellent dimanche. Le retour du sport sur les ondes, c'est ce soir 18h. D'ici là, excellent, très bon dimanche. Et on n'oublie pas, comme il se doit,
d'aller voter.
Et merci, oui, mon cher Hugo. À tout à l'heure. Bonne journée à vous. Ciao.